Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le cinéma muet a-t-il jamais existé ? Pas sûr. Le cinéma sans parole, oui. Mais le cinéma s'est tout de suite servi de la musique. Il s'est ainsi enrichi. Et l'on s'est sans doute également très vite, alors, aperçu qu'il fallait au cinéma des plages de silence. Le 100% sonore, ce n'était pas bon. L'émission Les Mardis du cinéma, qui suit, signée Jacques Munier, revient sur la musique et le cinéma entre deux guerres. Émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 6 mars 1990.
Il y a toujours eu de la musique sur un film. Le cinéma muet, ça n'a jamais existé. Dès les premières projections des Frères Lumière, 1895, 28 décembre, il y avait un piano qui accompagnait les images. Et très vite, on est venu à avoir plus qu'un piano, à avoir un quatuor, à avoir un orchestre, les grandes salles qui faisaient le plein, quelques grandes salles parisiennes avaient un orchestre de 40-50 musiciens. Le piano, c'était pour les quartiers et les salles de province pauvres, petites. Encore que moi, par exemple, j'étais en province, j'étais dans un village, j'ai connu cinéma muet encore. J'étais en visage, mais moi, j'avais un orchestre. Oui, parce que, comme ils n'avaient même pas d'argent assez, peut-être, pour se payer un pianiste et un piano, eh bien, ils avaient un tourne-disque et ils mettaient des disques. Mais en mettant des disques, il y avait, quand ils mettaient, je ne sais pas moi, une ouverture de Rossini, la pivoleuse, ça allait très souvent avec les westerns, ça. Bon, ben, la pivoleuse, c'était tout un orchestre qui jouait ça, quoi. Non. On le voyait pas, simplement. Au fond, il n'était pas sur la piste sonore, il était dans un coin de l'écran en bas à droite, je me rappelle. Et c'était l'ouvreur de service qui, entre le moment où il plaçait les gens dans la salle, allait changer le disque. En se dépêchant, parce que tout d'un coup, la scène de western était devenue une scène d'amour. Là, il fallait vite remplacer la pivoleuse par Rêverie de Schumann. Bref, il y a toujours eu de la musique et on a très vite composé de la musique originale pour les films.
Tout le monde est prêt. On va tourner. Si, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur de tourner devant vous la scène finale de notre film Passion d'Orient. Vous êtes prêts ? On tourne ! Continuez, continuez, vous n'avez même pas eu le temps de vous embrasser. Assez, assez, envoyez le grand vizir. Halte, halte.
À bien des égards, la musique de film représente l'aboutissement d'un fort mouvement d'attraction vers l'image qui, dès la fin du 19e, semble entraîner les arts dans le sillage de la photographie à rechercher, chacun à sa façon, une parenté avec ce modèle naissant de la mimésis esthétique. La musique à programme, la poésie symboliste, l'impressionnisme puis l'expressionnisme, le rêve wagnérien de l'œuvre d'art totale et jusqu'aux images et estampes de Debussy, Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une prolifération des images s'est préparé là, dans une fertile agitation provoquée par la naissance de la photographie et du cinéma. On retrouve dans les élans mimétiques de la musique de film ce programme implicite qui fut celui de l'art moderne, mais là, il s'agit d'une véritable fonction, car c'est dans le contrepoint ou la fusion de la musique et de l'image que se lève et se précise le climat d'un film, son atmosphère, bref, tout ce qui échappe à la parole ou aux situations définies par le dialogue. Et quelle est l'atmosphère propre au cinéma français des années 30 ? La musique, justement, héritière de toute une tradition française, entre pour beaucoup dans la coloration de ce climat, et il faut peut-être entendre ici un observateur étranger. Théodore Adorno, philosophe allemand, définissait ainsi la caractéristique centrale de l'art français de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La représentation immaculée de l'idée d'une sensualité éloignée du sens. On retrouve là jusqu'à la naïveté de cet esprit français des années 30, la bienveillante malice, l'innocente ironie qui anime les productions de ces années avant que les signes avant-coureurs de la guerre n'assombrissent le climat de la fin de la décennie. Et la musique à l'écran, composée le plus souvent dans le moment, musique destinée à s'intégrer à une œuvre collective et qui mobilise toutes les ressources de sa séduction, cette musique vibre encore pour nous de l'histoire qui la fit naître, comme si le caractère instantané et éphémère qui fut le sien en son temps était aujourd'hui le meilleur garant de son éternité.
La musique avait la triple fonction de créer les ambiances, les bruits, les sentiments et de faire son discours personnel. Alors c'était un peu compliqué parce que...
François Porcil.
Il n'était pas question que le silence existe. Or, on s'est vite aperçu que l'intérêt de la musique de film, c'est de ménager des silences et qu'elle ne soit pas omniprésente. Et ça, je crois que ça a été le gros problème de la musique de film au début des années 30, quand on a pratiqué la nouvelle invention qui était le son photographique. On peut rappeler d'ailleurs à ce propos que la première exigence de la musique au cinéma était de faire changer la cadence de la prise de vue de la projection, puisque le cinéma muet tournait à 18 images secondes et qu'on s'est aperçu que pour qu'une musique soit audible, il fallait une longueur de l'équivalence de 24 images secondes. C'est pour ça qu'on est passé de 16 à 24, parce que le dessin du son photographique ne supportait pas qu'il soit plus court. Donc le premier oukase de la musique au cinéma, ça a été de changer les cadences et de bouleverser l'industrie.
Et est-ce qu'une des conséquences de cette situation n'a pas été, tout au moins au début, une présence excessive de la musique à l'écran ?
Ben, je crois que c'était l'exigence des producteurs, c'est-à-dire que c'était le 100% sonore. Donc ça voulait dire, dès qu'on avait fini de causer, il fallait de la musique, parce que... Il fallait que les gens en aient pour leur argent, c'est-à-dire pour leurs oreilles. Il en fallait plein les oreilles. Et justement, ça a été le propos des quelques compositeurs intéressants du début de la période sonore, c'est qu'ils se sont un peu penchés sur la question en disant, si on est là pour faire la même chose qu'on faisait précédemment dans les salles muettes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors il y a eu, on peut citer les trois grands compositeurs qui se sont penchés sur la question au début du cinéma sonore, c'est Maurice Jobert en France, Hans Eisler en Allemagne, puis en France, puis aux États-Unis puisqu'il a fait une triple carrière, et évidemment Prokofiev en Union soviétique.
Tout d'un coup, il y a plusieurs esthétiques qui s'affrontent. Il y a l'esthétique qui dit
Henri Colpi,
du moment que c'est parlant, que c'est réaliste, qu'il faut aussi entendre les paroles, qu'on dit il ne faut plus mettre de musique dans un film, sauf quand elle est justifiée. Par exemple, si on rentre dans un cabaret, une boîte de nuit, quand elle est justifiée, alors on peut mettre de la musique. Mais sinon, il ne faut pas de musique. Et en effet, il y a beaucoup de films des années 30 sans musique. Un film comme La tragédie de la mine, 1931, Paps, ça se passe dans la mine, c'est un accident dans les souterrains sous le sol, là. Enfin bon, il n'y a pas besoin de musique, on peut pas en mettre, il y a enfin, l'ambiance, les bruits, les coups de pique des mineurs quand ils sont enfermés. Bon. Plus nettement encore, À l'Ouest, rien de nouveau, film de guerre, plus nettement encore, Quatre de l'infanterie, du même Paps, film de guerre. Il y a beaucoup de films comme ça qui n'ont... les premiers films de gangsters américains, style Little Caesar, etc., là, quand James Cagney devient vedette de ces films, des premiers films de gangsters, on les appelait comme ça, continuons. Eh bien, là, c'était quand même la mitraillette, enfin, les coups de feu et les crissements de pneus de voiture qui étaient plus importants que partition musicale. En gros, il y avait de la musique sur le générique de début, c'est-à-dire les génériques étaient courts à l'époque. Donc, une petite minute, une minute et demie au début, et parfois sur le mot fin. Il y avait un peu de musique sur le mot fin. Et puis, il y a eu l'esthétique, la deuxième esthétique.
Ça, c'est la musique comme son, finalement.
C'est ça, la musique d'accompagnement, d'ameublement sonore, comme aurait dit Stravinsky. Et une deuxième esthétique, tout de suite, c'est qu'on s'est mis à chanter dans les films. Alors là, tout était permis, puisque c'était des films, un film musical. Film musical, bon, alors on chante, on danse, il y a de la musique partout, ça c'était à peu près normal. Bon, c'était réaliste à sa manière. Là où c'est devenu un peu moins réaliste, c'était quand, dans certains films, comme ça, on parlait, et tout d'un coup on se mettait à chanter. C'était pas tout à fait réaliste. Mais enfin, c'était admis, c'était le film musical. Bon. Et puis, il y avait une troisième esthétique qui survivait, c'était l'esthétique du cinéma muet, c'est-à-dire celle de l'image accompagnée par un orchestre. On s'est mis en ami. La partition, au lieu d'être jouée dans la salle, elle était enregistrée, comme on enregistre aujourd'hui. Avec la seule différence, c'était l'esthétique du muet, que ça ne parlait pas dans les films muets. Les films muets qui avaient été finis de tourner en 1926, 27, 28, ils n'avaient pas fait leurs 4-5 ans d'exploitation. Maintenant, l'exploitation, c'est 3 semaines. Mais à cette époque-là, c'était 5 ans. 4-5 ans. Là. Alors, ils avaient un truc comme un film comme Ben Hur, 1926, 27, par là. En 1928, il est possédé parce que en 28, il y a le cinéma parlant aux États-Unis. Il est installé. Alors, pour faire avaler, si je puis dire, la pilule au spectateur, il faut qu'il y ait du son sur la pellicule. Et du son, quel son? Ça ne pouvait être que la musique qu'un compositeur, d'ailleurs, avait composée, par exemple, pour Ben Hur, vers 1926. Alors, on la met sur pellicule. Et ça fait un film sonore, pas parlant, mais en tout cas sonore. Mais où il y a de la musique de la première à la dernière image.
Et alors, brusquement, ça s'est libéré, et tout de suite, on a entendu parler, et on a entendu chanter. On a entendu chanter extrêmement rapidement. La musique a été primordiale dans ces temps-là. Elle était primordiale à la fois parce que quelques compositeurs, en effet, comme Ibert, ou comme Wiener, qui avait un peu débuté là, ou comme le réalisateur Grémillon qui allait s'imposer et qui jouait, lui, en ce temps-là, dans un orchestre de cinéma.
Raymond Chira.
Ont continué de composer et ont augmenté énormément leur production. Mais enfin, disons que c'était quand même des cas un peu isolés puisque les trois quarts du temps, dans ces sortes de films que l'on voyait alors, on se contentait d'un pot-pourri d'œuvres célèbres. Le chef d'orchestre avait devant lui sur son pupitre une partition numérotée, énumérant que à tel instant, à telle séquence, il fallait se reporter à tel morceau que l'orchestre attaquait gaillardement. Alors, à partir de là, on s'est mis véritablement à écrire des partitions pour le cinéma et pour chaque film. Ce qui s'est passé, par exemple, c'est que, le cinéma parlait, on s'est précipité évidemment à adapter des pièces ultra parlantes, sans en couper une ligne, et on s'est dit pourquoi ne pas faire la même chose pour la musique, on va adapter des opérettes.
Far over the waves,
in a dreamboat we'll go where you please.
Beautiful,
far over the waves, da 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 da.
Le cinéma à cette époque, au début du parlant, est aussi le domaine d'élection de grands compositeurs, disons d'origine classique, Georges Auric, Honegger,
oui,
Millau.
Oui, oui, oui. Georges Auric, Honegger, Millau, oui, Honegger qui était souvent associé avec Arthur Oeyre, a écrit de fort belles partitions, puisqu'il avait écrit notamment dans le muet. La partition pour La Roue d'Abel Gance, qu'ensuite il a condensé pour en faire Pacifique 231, qui était un morceau symphonique joué dans les orchestres à cette époque-là. Darius Milhaud également. Darius Milhaud, moi j'ai le souvenir d'un de ses films, qui est un film de Maurice Chevalier. Il faut bien parler de Maurice Chevalier, qui lui avait la gloire en Amérique, dans des opérettes justement. Et ce film que Darius Milhaud avait écrit la partition, c'était un film tourné en Angleterre qui s'appelait Le Vagabond Bien-Aimé. Et Le Vagabond Bien-Aimé est une charmante histoire, très, très, très amusante, très bien enlevée. Et la musique de Darius Milhaud est tout à fait à sa place. Mais vous savez, il y a eu, puisqu'on parle de Maurice Chevalier, il y a eu les adaptations d'opérettes d'Oscar Strauss et tout ça qu'il a tourné aux États-Unis. Il y a eu l'adaptation de La Veuve Joyeuse qui a un rapport lointain avec l'opérette elle-même, mais où les airs subsistent. Et il avait tourné également Folie Bergère là-bas aux États-Unis, ce qui était un comble évidemment d'aller tourner Folie Bergère aux États-Unis. Oh, il y a des chansons absolument merveilleuses, mais écrites par des compositeurs américains, notamment une qui s'appelle La chanson de la pluie, qui a été un de ses grands succès.
Oui, vous parlez de chansons. Justement, à cette époque-là, la chanson était souvent l'élément d'identification du film, c'est-à-dire les gens connaissaient le film par la chanson.
Tout à fait, mais vous savez, dès 1930, il y a René Clair a tourné Sous les toits de Paris. Or, vous avez vu le film, vous savez que Sous les toits de Paris commence dans la rue, avec un travelling ascendant sur les façades de l'immeuble, et que dans la rue, on part d'un orchestre de la rue, là, de chanteurs de rue, avec les badauds qui sont tout autour, et qui écoutent chanter. Vous savez, ça existait à cette époque. Il y avait, moi je me rappelle très bien à Lyon, non loin de chez moi, il y avait une place, et sur cette place, il y avait toujours un orchestre qui s'installait. Les gens écoutaient, entendaient, achetaient les petits couplets qu'on leur vendait et reprenaient en chœur. Et cette façon de reprendre en chœur les chansons, on la retrouve dans un film de cette époque. qui a été un succès énorme, c'est un succès tout à fait populaire, c'est Le Roi des Resquilleurs. Le Roi des Resquilleurs avait des chansons écrites par un compositeur qui est mort dans les camps de concentration, qui s'appelait Casimir Oberfeld, qui a écrit ensuite beaucoup, beaucoup de chansons pour Fernandel. Et dans Le Roi des Resquilleurs, il avait écrit une chanson qui disait « C'est ma combine », etc. Et vous savez, bon, la combine, le système D. Après, pendant l'occupation, le gouvernement de Pétain disait bah, « Ma foi, on comprend pourquoi la France a été vaincue avec toutes ces combines et tous ces systèmes D qui existaient alors. » Et ce « J'ai ma combine » a été un succès populaire énorme. Énorme. Alors, le film se terminait. Bon, on voyait apparaître le mot « fin » sur l'écran. Le spectateur commençait à se lever pour gagner la sortie. L'écran se rééclairait et Milton reparaissait sur l'écran et disait « Et maintenant, chantons tous ensemble. » Il entonnait « C'est ma combine. » Et paraît-il, enfin, moi, je n'ai pas assisté à ça, mais je l'ai lu, les spectateurs gagnaient la sortie en chantant le refrain. C'est formidable, quand même.
D'un film, on chante, on écoute. Et il y avait aussi une autre chose qui était la mémoire du film et qu'on oublie souvent, c'est la photographie. Je veux dire, les photos du film.
Les photos du tournage.
Les photos de tournage. Et c'était un vieux personnage de la photo qui m'avait... Un photographe de plateau, comme on dit, des gens comme Roger Corbeau, là, enfin, qui ont photographié 50 ans de films français. Et il me disait, c'est pas lui, c'est Sacha Mazour, mais enfin, ils disent tout ça. Quand on fait la photo d'une scène, on perd 5 minutes. On perdait à l'époque 5 minutes, parce qu'il fallait faire ça sur plaque, etc. Il fallait que le photographe mette sa caméra à l'emplacement où était la caméra, dans les lumières du film. Et il me disait, on perd 5 minutes, je fais le plus vite possible pourtant. Mais n'oubliez pas que peut-être tout ce qui va rester de votre film, c'est les photos. Parce que c'est vrai que beaucoup de films se sont perdus, ont été anéantis, ont brûlé. Enfin, cela dit, c'est vrai que la meilleure des mémoires, c'est quand même la musique.
Un jour sans façon, un joli garçon, comme on chante dans les chansons, il fit simplement quelques compliments. La grisade boniment. Nini, je te jure, ça se fait plus la vertu. Je t'adore, sois à moi, vives-tu. Tous les étoiles de Paris, dans ma chambre à Nini, on s'embrasse si j'y vont être unis. C'est quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps.
Je me souviens une fois comme ça avoir rencontré Alain Cuny, 2 ou 3 ans après Les Visiteurs du Soir. Il était encore beau jeune premier, tout ça. Bon. J'ai croisé dans la rue, hein, je veux dire. Il s'est arrêté pour regarder quelque chose dans une vitrine, une exposition de peinture, là, enfin des tableaux du côté de l'avenue Matignon. Moi, je me suis arrêté à côté de lui pour, du coin de l'œil, comme ça le regarder. C'était la première fois que je le voyais en chair et en os, quoi, cet homme qui était dans Les Visiteurs du Soir et qui m'avait quand même beaucoup séduit, à la fois lui et le film, et les chansons, les célèbres chansons des Visiteurs du Soir, enfin toute la musique des Visiteurs du Soir qui était... Et j'étais à côté de lui et il chantait, il sifflait un air des Visiteurs du Soir. Ça faisait un Alain Cuny en plus, quoi. Ça faisait un plus dans Alain Cuny.
est couvert de fruits. Adam vit la femme, il fut bien surpris. Il fit stupéfait ce petit joujou, pourquoi que c'est fait? Elle vit un serpent, mesdames, lui dit l'œil en flamme. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme. Comme l'oiseau est fait pour le roseau, et le nid pour l'oiseau. Oui, pour l'homme, la femme est faite, comme l'eau pour la fleurette. Comme la perdrix pour le petit perdreau, et la laine pour l'agneau. Père Adam qui n'était pas sans voix, comprit cette loi. Car c'est vrai qu'un jour au paradis, le serpent a dit, la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme. Comme le soleil est fait pour les beaux jours, et le cœur pour l'amour. Comme la cage est faite pour l'écureuil, le lorgnon pour l'œil. Comme la mer est faite pour le bateau, le pneu pour le dos. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme. Comme la baguette est faite pour le tambour, et le cœur pour l'amour.
De cinéma doit être très très divers, car il peut être en effet le musicien d'ameublement, c'est-à-dire celui qui meuble l'image d'un certain décor sonore qui ne doit en effet ne pas être entendu, mais il peut être aussi l'homme qui commente une image, et cela est souvent demandé aux musiciens qui accompagnent les courts-métrages. Quand il y a des paysages, il faut que sa musique rejoigne certains paysages sans exactement les commenter, mais du moins donne à l'oreille le sentiment que ce que l'œil et l'oreille voient s'accordent.
Henri Sauguet,
un musicien vraiment, et cela m'est arrivé, qui est obligé d'écrire des œuvres symphonique pour le cinéma. J'ai, dans, par exemple, le film qui s'appelle Les Amoureux sont seuls au monde, dû écrire un concerto miniature, d'ailleurs que j'ai conservé dans mon bagage de musicien dit sérieux ou traditionnel, comme vous dites, et qui est mon deuxième concerto de piano, que j'appelle Rêverie concertante.
Un concerto miniature, il y a aussi une chanson, d'ailleurs.
Il y a une chanson, bien sûr, mais là aussi, le musicien peut être appelé à écrire des chansons. Vous voyez, le musicien de cinéma doit être, au fond, un musicien de théâtre. Il doit répondre à tout ce que le théâtre exige du musicien, c'est-à-dire qu'il soit à la fois le roi, le poète, la reine, le voyou, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter qu'ils sont les personnages d'un drame ou d'une psychologie dramatique. Néanmoins, le cinéma pose des problèmes, et alors ces problèmes sont les problèmes du temps et de la limite de l'espace. Eh bien, mon Dieu, c'est un écueil que l'on doit franchir avec la même aisance, car nous sommes limités dans tout. Même quand nous mettons une poésie en musique et quand nous écrivons une symphonie, nous savons que nous ne devons pas disposer inutilement, comme le disait Eric Satie, du temps de nos auditeurs. Vous savez, j'ai commencé ma vie de musicien en étant organiste d'église et organiste du culte. J'ai ainsi appris à être également limité dans mes improvisations par le temps qui est imparti à l'organiste pendant le culte, que ce soit à la messe ou aux vêpres, car à ce moment-là, l'organiste jouait à la messe et aux vêpres. Tout cela a beaucoup changé depuis, mais enfin, à ce moment-là, je jouais aux vêpres. Également, qui est obligé d'un dimanche de faire telle liturgie, un autre dimanche, une autre, qui accompagne une mariée à l'autel, qui accompagne un être à son dernier sommeil. Donc tout cela donne au style du musicien d'église, du musicien organiste, une grande variété de registres qui m'ont beaucoup servi. Cette variété m'a beaucoup servi pour écrire de la musique de cinéma. Vous voyez comme tout se tient dans la vie d'un musicien.
Thank you.
Bon, on parle toujours du problème de la musique, mais il faut parler aussi de l'intérêt pour le monde sonore nouveau qui était nouvellement créé et qui est, je pense à des gens comme Buñuel, comme Pagnol, comme Vigo par exemple, ou Renoir, qui ont attaché d'emblée une importance formidable au son, malgré les difficultés d'enregistrement. Pense à un film comme Tony, qui date de 1934, où avec le matériel sonore épouvantablement compliqué, lourd, peu maniable qu'il y avait à l'époque, il est allé tourner en son direct dans les garrigues de Provence pour avoir la vérité du son, la vérité des voix et la vérité des ambiances.
Vous savez, il faut faire quand même beaucoup attention à ces questions de bruit et de mélodie. Ça devient très rapidement des pléonasmes aussi. On parle toujours de très très bons compositeurs. Il y en a qui sont beaucoup moins bons, il faut dire. Il y avait un des compositeurs favoris de Sacha Guitry avant la guerre qui s'appelait Adolphe Borchard. Adolphe Borchard, vous savez, c'était le type que on voyait quelqu'un descendre en escalier, c'était tididim, tididim, tididim. Bon, c'est ça, il remontait, c'était bloum, doudoum, doudoum. Bon, et c'était tout comme ça, c'était une espèce de musique qui faisait pléonasme, quoi.
À cette époque, il semble que de la part de ces compositeurs, il n'y avait pas ce qu'on peut peut-être constater aujourd'hui, une espèce de, disons, de mépris ou de dédain pour l'aspect industriel et technique de l'art cinématographique. Au contraire, il y avait une espèce d'attrait formidable pour la technique.
Ça dépend qui, parce qu'il y a des compositeurs qui se sont contentés d'écrire pour le cinéma sans se soucier des autres événements sonores qu'il y avait à l'intérieur du film. C'est pour ça, si vous voulez, que des gens comme Eisler ou Jaubert, bon, pour leur associer Auric, qui a été très très intéressé à ces problèmes-là, dès le 120 poètes de Cocteau, c'est pas pour rien, puisque Cocteau était quelqu'un aussi qui était beaucoup intéressé au phénomène sonore. En dehors d'eux, c'était des gens qui écrivaient de la symphonie pour film. Hein ? Il n'y avait pas cette espèce d'inquiétude de l'importance du dialogue, de l'importance des bruits, par exemple, bon, qui, en dehors de Jaubert ou d'Eisler, se sont intéressés au phénomène de rythmique du son qu'il y avait dans l'image et qui permettait à certaines musiques de naître sur un certain rythme ou de se fondre dans un autre événement sonore qui intervenait. Bon, il y a un autre compositeur qu'il faudrait citer aussi parce que son travail avec Grémillon a été très très particulier aussi, c'est Roland Manuel, parce que Grémillon et lui, bon, Grémillon était de formation musicien puisqu'il avait été élève de Vincent Dindy, d'emblée se sont intéressés justement au phénomène d'interaction du bruit réel du film avec la musique qui pouvait en découler ou qui pouvait s'opposer à ce type de bruit. Les bandes sonores des films de Grémillon sont absolument étonnantes pour ça parce qu'il y a toujours des éléments musicaux qui ont l'air extérieur au film et qui en fait sont moteurs de la structure organique du film. Je pense par exemple à la chanson des orphelins dans Le ciel est à vous, ou à la comptine qu'il y a dans L'étrange monsieur Victor sur le retour du bagnard chez lui. Enfin, il y a toujours une préoccupation sonore qui donne, si vous voulez, une dynamique supplémentaire à la construction du film.
Il y a un film des années 34 qui dit bien ce qu'il veut dire. Son titre, c'est « La crise est finie ». « La crise est finie » a été tourné par Robert Siodmak, qui était encore un émigré allemand. Bon, c'était au moment de, justement de, des remous qui avaient été provoqués par la crise de 1929, qui avait laissé quand même pas mal de décombres. Bon, qu'est-ce que c'est que « La crise est finie » ? C'est une petite opérette, tout à fait gentille. Il y a une troupe, vous savez, c'est toujours le schéma. Il y a une troupe un petit peu miteuse qui ne sait pas comment se débrouiller. Ils cherchent des commanditaires. Ils finissent par en trouver en escroquant un petit peu les gens. Et ils montent un spectacle qui s'appelle justement « La crise est finie ». Et alors, bien entendu, il est de vous dire que le spectacle va au nu et que c'est un énorme succès et qu'effectivement, la crise est finie à ce moment-là. Le tout joué par Darieux et Albert Préjean. Hein. C'était ça, c'était le schéma, c'est le moule exactement de cette espèce d'optimisme qu'il y avait à cette époque.
La crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
On avait un certain nombre de compositeurs qui étaient très très habiles à confectionner certains couplets. Bon, ces couplets, ils tenaient à cœur que ce soit retenu. Il faut dire que aussi cette époque qui était l'éclosion du cinéma parlant, c'était aussi l'éclosion de la radio, qu'on appelait en ce temps-là la TSF, et que c'était l'éclosion aussi du phonographe et du gramophone avec les disques 78 qui répandaient la musique dans tous les foyers. Alors, partant de ce principe, je ne dirais pas que ça arrivait à une espèce d'unification des choses, mais il est certain que des compositeurs qui savaient à la fois s'appuyer sur des paroles, parce que on peut citer Albert Wilmetz, qui savait écrire absolument des couplets dont le souvenir s'imprégnait immédiatement dans la mémoire des gens, et de la musique qui était frappante. Alors, les deux exemples les plus célèbres de cette époque, c'est Scotto et c'est Georges Van Paris. Scotto, de plus, c'est lui qui a mis à la mode l'opérette marseillaise. Alors vous savez, l'opérette marseillaise, elle a triomphé pendant ce temps-là. Et elle a triomphé. Pourquoi ? Pour une raison aussi importante, les congés payés sont arrivés. Les congés payés se sont développés. Ce qui fait des gens qui n'avaient jamais circulé, qui n'avaient jamais bougé de leur ville, se sont élancés, et souvent du côté de la Côte d'Azur. Ça a été pour eux une trouvaille, une merveille. Et quand ils sont revenus, et que l'hiver, on leur proposait des films qui pouvaient s'appeler « Un de la Canebière »,« Les gangsters du château d'If » ou « Le roi des galégeurs », ils retrouvaient sur l'écran ce qui avait fait le bonheur de leurs vacances. Et ça, je pense que ça a été tout à fait important, en définitive. Et alors Scotto, il avait l'art, justement, de faire ces chansons qu'on n'a pas oubliées, qu'on chante encore maintenant. Il y a eu, bon... je sais pas quoi, le petit cabanon, ou les pescadous de la Martiale, ou toutes les chansons d'Anne la Canebière qui sont comme ça, n'est-ce pas? Et en même temps, et se développant parallèlement, si vous voulez, à la production de Vincent Scotto, il y a eu aussi ce que j'avais oublié de vous dire, il y a eu Ray Ventura et ses collégiens qui paraissaient dans de nombreux films, qui ont joué dans des films. Un film de 38 comme Feu de joie a eu un succès énorme. Les collégiens de Ray Ventura, c'était la bonne humeur, c'était ça, c'était, vous savez, c'était beaucoup inspiré de certaines formations de jazz américaines, et il ne se bornait pas à jouer des morceaux, il jouait de véritables sketchs. Et puis enfin, c'était une pépinière d'acteurs, de chanteurs, André Dassari, Grégoire Aslan, Jimmy Gaillard, tout ça, c'était des collégiens de Ray Ventura. Et alors, c'était véritablement la bonne humeur encore sur l'écran, avec des farces dignes de collégiens. C'est pas des très grands films, mais c'est des films qui avaient un charme aussi. Et puis alors, il y a Georges Vamparis, qui a écrit alors une musique de film considérable, et dans le même esprit, si vous voulez, que les collégiens et que les vacances. Il avait écrit la partition d'un film encore réalisé en partie à Berlin, qui s'appelait « Prends la route ». Prends la route, c'était justement l'époque des congés payés, l'époque de Léo Lagrange, où les gens s'élançaient sur des tandems et sur des petites voitures et parcouraient, sillonnaient la France. Et il y avait dedans une chanson qui a eu son heure de célébrité, qui s'appelait « Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte, etc. » Et ça, c'est curieux parce que c'est resté quand même dans la mémoire populaire, toutes ces chansons. Hein. Voilà. Et Vamparis a été quand même aussi l'auteur de ce succès-là de 39 qui s'appelait, comme de bien entendu, que chantait dans circonstances atténuantes Arletty soutenu par Michel Simon. Parce que Michel Simon, lui aussi, ne dédaignait pas de pousser la chansonnette avec cette voix extraordinaire qu'on lui connaît. Arletty aussi, d'ailleurs, au coin du bois.
Les bons vins et la bonne chair. Maintenant, il ne bouffe que des pommes de terre. Et il sous la l'eau de vitelle. C'est bien fait, ça y apprendra à faire la nouba. Il avale au ratata, au ratata, au ratata. Il en est maussade, ça le rend malade. Quand il veut se baisser le matin, se baisser le matin, se baisser le matin. Il avale où ça le coquin.
C'était très exceptionnel qu'on commande des musiques ambitieuses, et il fallait souvent toute l'insistance du metteur en scène pour obtenir des partitions importantes. Je pense par exemple à quelqu'un comme Raymond Bernard, qui a eu le souci de demander à des musiciens importants, et dès la période muette, puisqu'il avait demandé à Henri Rabaud la musique du Miracle des Loups. C'est assez rare, parce que généralement on voulait de la rengaine. Et Auric rappelait par exemple que le contrat qu'il avait eu pour Anne la Liberté de René Clair, il n'en a jamais eu de pareil de toute sa carrière, c'est-à-dire par contrat, il devait assister à toutes les prises de vue, s'imprégner de l'esprit du film, il était payé pour ça bien évidemment, et il avait, je crois, un délai que personne n'a obtenu depuis pour écrire sa partition. Donc ça c'était toute l'insistance de René Clair pour avoir cette qualité-là, et à côté de ça, vous aviez l'exemple le plus célèbre dans le genre gougnafier, c'est les producteurs du Don Quichotte de Pabst, qui ont demandé la musique en même temps à Manuel Desfaillat, Jacques Ibert, Maurice Ravel, Marcel Delannoy et Darius Milhaud, et c'est celui qui a écrit le plus vite qui a été choisi, c'est-à-dire Jacques Ibert. Et ça, c'était des pratiques courantes, c'est-à-dire c'est à qui ferait le plus vite et dans le genre le plus, disons, commun.
Dans ces années d'intense production cinématographique, les besoins en musique étaient considérables. Et il faut dire que si la demande était là, l'offre était en quantité et en qualité à la hauteur de la tâche. Beaucoup de compositeurs de ces années 30, de formation classique, se sont presque exclusivement consacrés au cinéma, comme Jacques Ibert, Maurice Jobert, Joseph Kosma, Claude Roland-Manuel, Georges Vamparis ou encore Jean Wiener. Tous ont écrit pour le concert des œuvres qui méritent d'être réécoutées. D'autres, qui avaient acquis leur réputation au concert, furent attirés par cet art nouveau, en dépit des contraintes qu'il leur imposait. Georges Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud emboîtent le pas à leurs illustres devanciers Camille Saint-Saëns et Eric Satie. Tous ces artistes ont donné aux images en noir et blanc une couleur bien française, un mélange de clarté, d'esprit, d'expressivité et d'humour, qui fait écho à la poésie muette des images. Dans l'élément de cette musique, le film puisait des énergies collectives qui entraient en consonance avec les différentes esthétiques qui, de Carnet à Renoir, ont constitué le cinéma français des années 30.
Mais dites donc, est-ce que vous vous fichez du monde, vous ? Vous ne pourriez pas nous donner quelques explications ?
Vous voulez l'explication ? Soit. Nous voulons bien vous faire le récit de l'incident qui se termine ici. Mais si l'on veut comprendre cette histoire, le cours du temps doit faire demi-tour. Prenez patience et quelque chose à boire. Et revenons au début de ce jour.
Prenez patience et quelque chose à boire. Et revenons au début de ce jour.
La musique au cinéma, elle est assez fragmentaire, la musique de cinéma est aléatoire. Elle est aléatoire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est une musique qui...
Alain Lacombe.
Qui donne des indices de signification, de référence, bon, qui donne des indices de transition. C'est, en fait, ce qui est intéressant avec la musique de cinéma, c'est pas tellement le fétichisme qui s'attache à elle, mais c'est la manière dont cette forme d'expression musicale permet des ellipses, permet une espèce de conception de rapport bienheureux entre le spectateur et certaines émotions du film par le biais de la musique. La musique est un média. Elle est un média plus ou moins intelligent selon le talent des compositeurs et je dirais aujourd'hui plus ou moins efficace selon que les médias extérieurs au cinéma reproduisent ce média. Le Grand Bleu, Éric Serra, Luc Besson, c'est un film qui renvoie directement à une compréhension, je dirais, quasi sublimale de l'image, dans un sujet qui se prêtait à ça d'ailleurs, faut dire quand même tout ça c'est hyper intelligent, et qui en même temps fera dire à certains c'est pas de la musique, à d'autres c'est ça la musique de film. Et c'est sur cette espèce de hiatus qu'on va fonctionner et qu'on fonctionne depuis très 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 longtemps. Alors dans les années 30, la musique de film, elle était ce qu'elle était, elle était française. Voilà. Bon, aujourd'hui la musique de cinéma en France n'est pas française.
Et qu'est-ce que vous diriez pour définir la tonalité musicale de ces années ?
Français, c'est-à-dire musique française de Saint-Saëns, de Fauré, de Franck. De Satie. D'ailleurs, c'était une époque où les gens, curieusement, ces musiciens-là vivaient assez vieux. Il y avait des croisements de générations comme ça. Ensuite, c'était la chanson. Parce que la chanson, on n'a jamais autant chanté dans le cinéma français qu'entre 1930 et 1940. Parce que la chanson... Bon, d'abord, il faut savoir que le music-hall était extrêmement populaire. Et que le music-hall, c'était une dimension... Bon, qui avait sa place et sa respectabilité, mais qu'il fallait à un moment trouver la démultiplication possible à ça. Et ça s'est fait grâce au cinéma. Et tous les acteurs, même s'ils ne savaient pas chanter, se sont mis à chanter au cinéma. La chanson, c'est un peu, moi j'appelle ça la silhouette involontaire du spectateur qui est sur l'écran, parce que ça reprend un peu les thèmes. C'est une tribune permanente. Je veux dire, quand il y a eu le Front Populaire, par exemple, on a chanté, puis il s'est tabé, on chantait, il y a toujours un passage à niveau. Mais qu'est-ce que c'est, il y a toujours un passage à niveau? Ce sont les congés payés, c'est la première découverte de la mer, c'est le premier voyage, c'est une espèce d'obsession comme ça, et il y a toujours un passage à niveau. Ben oui, c'est la réduction au niveau de la vie, de ce qu'était le drame et la combinaison de cette époque. Et tout ça, bon, alors il y en a eu comme ça beaucoup. Donc en fait, c'était ça la tonalité, c'était le respect d'une tradition de la musique française, héritière des grands symphonistes de la fin du siècle et du début du siècle, qui n'osaient pas trop toucher Ravel et Debussy, mais qui étaient plus près de Fauré, Saint-Saëns, Franck, et puis qui d'une certaine façon aussi, avaient le respect de ce qui venait être finalement la tribune de tout ce qui se passait en France à l'époque, puisque les chansons se permettaient à travers les films d'apostropher des personnages de la vie publique. Et c'était ça, y compris des phénomènes, comme par exemple le phénomène du Front Populaire. Il y a peut-être une troisième dimension de la musique des années 30, c'était que à cette époque-là, on n'avait pas envie que les cinéastes aient une influence sur la musique. Ils avaient peut-être dans le choix, peut-être, mais ils ne travaillaient pas la musique comme une matière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce travail, de mixage, de torsion de la musique, ou de direction d'écriture de musique. On prenait un compositeur sur sa respectabilité ou sur son succès.
Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour. Parmi la foule, un amour sur une âme de 20 ans. Pour elle tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves. Tout est couleur d'amour.
Qu'est-ce qui différencie une musique de film d'une musique pour le concert?
Alors ça, c'est un problème que peu de musiciens ont envisagé, mais qui me paraît essentiel, c'est que c'est d'abord une musique enregistrée. Donc une musique sur laquelle on peut faire jouer toutes les possibilités techniques de l'enregistrement. Alors pour ça, bon, faut rappeler le coup du ralenti de zéro de conduite, par exemple, qui est le premier phénomène dans le genre de l'utilisation poétique de la musique mécanisée, c'est-à-dire donc pour cette séquence du ralenti dans le dortoir des enfants en révolte. Donc Vigo demande à Jaubert une musique pour cette séquence-là, et Jaubert dit c'est idiot de faire une musique qui fasse effet de ralenti. Il faut trouver un équivalent technique qui prolonge un peu cette idée de ralenti. Alors il y a eu l'idée de faire enregistrer à l'envers un thème de valse, en commençant par la dernière note, en finissant par la dernière, et au montage de faire retourner la bande. C'est-à-dire on retrouvait l'ordre des notes, mais avec leur émission inversée. C'est-à-dire il y avait cette espèce de phénomène d'aspiration qui, bon, 55 ans après, fait encore l'effet que l'on sait. Bon, vous avez l'autre exemple de Prokofiev pour la bataille sur la glace d'Alexandre Nevsky, disant « Puisque le son des trompettes teutoniques devait être fort désagréable aux oreilles russes, je vais mettre un micro juste dans le pavillon des trombones pour avoir un effet de distorsion très désagréable aux oreilles, qui donne l'équivalent de ce qu'entendaient les combattants russes, voyant déferler sur eux les cavaliers teutoniques. » Et ça, On a peu d'exemples de ça, alors que ça me paraît quand même très important. Et je crois que s'il y a tant de faiblesses dans la musique de film des années 30, si elle paraît aussi uniforme et aussi sclérosée, c'est que je crois que les gens écrivaient sans savoir qu'ils écrivaient pour une technique particulière. Ils écrivaient comme pour le concert, la plupart du temps. C'est vrai que même des gens qui s'intéressent au cinéma, comme Honegger ou Millau, écrivaient des musiques qui n'étaient guère différentes de ce qu'ils écrivaient pour le concert. C'est-à-dire que, par exemple, ils écrivaient, ça a été une des grandes qualités de Jaubert aussi, c'est qu'ils se sont très vite rendus compte que la piste sonore cinématographique pouvait se contenter de timbres instrumentaux solistes et pas d'effets de grand orchestre. Et par exemple, les musiques de Jaubert n'ont jamais plus de 30 musiciens. C'est très rare d'avoir plus de 30 musiciens. Bon, les musiques d'Eisler, c'était des ensembles de chambres. Quand Britten écrivait pour les documentaires anglais, c'était des musiques aussi extrêmement restreintes, comme ça, où on mettait en valeur le timbre instrumental plutôt que la masse orchestrale. Qui, en plus, il faut dire, à l'époque, s'enregistrait pas très bien sur la piste photographique. Mais comme on avait l'habitude des grands orchestres dans les salles muettes, les studios voulaient l'équivalent sur les pistes du cinéma sonore.
C'est d'ailleurs une des grandes mélancolies que j'ai lorsque je pense à son destin tellement tragique, tellement lamentable.
Georges Ory.
Car il est peu de disparitions qui aient été plus absurdes, profondément inutiles que celle de Maurice Jaubert. Elle a été héroïque, sa disparition, mais elle a été profondément inutile. Vous savez qu'il s'est battu alors que tout était fini, à un moment où sa mort n'apportait plus rien à la défense de notre pays. Il était isolé dans la ligne Maginot, il ignorait tout de ce qui venait de se passer. Par conséquent, sa mort était d'une cruauté horrible. Eh bien, lorsque je pense à cette disparition et lorsque je pense à tout ce qui s'est passé depuis la libération dans le domaine du cinéma, à la façon dont cet art a évolué, eh bien, je songe à ce qu'un garçon comme Jaubert, de son côté, aurait écrit pour le film. Et j'ai une grande nostalgie, car je suis certain qu'il aurait apporté, de son côté, des solutions excessivement passionnantes à ce problème que demeure la musique de film. Car, à mon avis, elle est loin d'avoir trouvé encore sa forme définitive.
Cette musique, elle appartient à tout le monde, même ceux qui, d'une certaine façon, ne sont pas impliqués dans le film. Alors il a écrit des musiques qui n'avaient pas honte d'emprunter une sorte de nostalgie perpétuelle. Il y a le mouvement perpétuel, il y a la nostalgie perpétuelle de ce mouvement que Maurice Jaubert a mis dans ses films, enfin dans les films dont il a fait la musique. Et c'est vrai que moi, je pense. Et quand François Truffaut m'avait dit un jour, voilà, Truffaut n'aimait pas la musique, et il m'avait dit, je sais plus quoi faire pour les fils, c'est plus possible, je sais plus quoi faire. C'était pour Adèle H. Il savait plus quoi faire. Et il a eu le réflexe cinéphilique, c'est-à-dire, il s'est dit, je sais plus musicalement. Les deux Anglaises et le continent, Baiser volé, c'était traîné qui servait de leitmotiv, enfin tout ça, bon. Si maintenant il faut que je fasse quelque chose qui soit extérieur à moi-même, extérieur à mes films, et il a pris les musiques de Jaubert pour Adèle H, pour La Chambre verte, pour L'argent de poche et L'homme qui aimait les femmes. quatre films importants de Truffaut. Sans doute la période avec Le Dernier Métro qui pourrait clôturer ce cycle, peut-être le plus important de la deuxième carrière de François. Et ça a été, comment dirais-je, ça a été à la fois sacrilège de dire on va prendre la musique qui a servi à des documentaires que Jaubert avait fait pour Henri Storck, que Jaubert avait fait pour un certain nombre de films qui restent des films importants et des films majeurs. Bon, La Talente, enfin disons en gros tout le cinéma de Carnet, tout le cinéma de Vigo. Et tout d'un coup, ceci est remis en situation dans des fictions qui n'ont rien à voir avec ce qu'était l'illustration et la destination première. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus fort, et je crois que ça a échappé à François Truffaut, c'est que il avait compris que, en fait, ce qu'il y avait chez Jaubert, c'était que Jaubert avait mis au service des cinéastes qu'il avait vraiment servi une sorte d'évidence. C'est le cinéaste de l'évidence, c'est la grande tradition musicale française. C'est, je veux dire, si Jaubert pouvait être... Ce qui est fabuleux, c'est que Jaubert a été entre Saint-Saëns, Fauré, Ducas et les autres, et puis le groupe des Six. Et il a échappé, par on ne sait quel destin historique, malheureusement on le sait, à ce qui aurait pu être une récupération. Il aurait pu devenir un clown surréaliste, ou s'amuser de sa musique. Et il est resté dans... Il a plutôt été un héritier inventif, fabuleusement épris des gens et du peuple. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui n'avait absolument pas d'a priori restrictif, élitaire et tout ça, qui était complètement sur les gens. Quand on lit ses lettres et tout ça, il n'y a eu que ça. Et faire Carnet de bal pour lui, ou faire Hôtel du Nord, ou faire ces films qui ont marqué le cinéma français, mais le cinéma des gens. C'est Sartre qui disait ça, il avait raison, il disait... Hier soir, je suis encore allé voir un film, c'était le cinéma des gens.
Étonné à réécouter sans image la bande sonore de Quai des Brumes, de voir le souci d'intégration de la musique par rapport à l'ambiance du film, à telle enseigne que, et c'est très rare pour l'époque, la musique est mixée à la même intensité que les bruits. On a l'impression d'une partition continue. Et ça, c'est très très exceptionnel. Il l'a refait avec Carnet dans Le Jour se lève, de manière encore plus formidable, puisque Le Jour se lève, c'est la première fois où on a toute une partition de musique de film non mélodique. C'était un scandale pour l'époque, j'imagine. C'est la musique du jour se lève, c'est purement sensoriel. C'est un rythme de cœur humain sur la durée du film. Il n'y a aucun, enfin, sauf dans la scène de la serre, mais il n'y a aucun élément mélodique avoué dans la musique du jour se lève. Ça, c'est tout à fait étonnant. Parce que ça, je crois que de la part des producteurs à l'époque, c'était vraiment inadmissible. On avait besoin de la mélodie du film.
Mais t'as compris, un peu plus chaque jour, ce que c'est le bonheur, mon amour, sous les toits de Paris.
Ah, ça va, on la connaît.
C'est bien, vous ne l'entendrez plus. Quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps, faut s'aimer sans perdre seul instant. L'air était très pur et le ciel d'azur. Elle dit je ne peux pas, puis elle se donna. Oh, cette chanson.
C'est ainsi qu'entre jour.
Le Front populaire au cinéma, c'est la révolution des tandems. Le film culte de cette année 36, La belle équipe de Julien Duvivier avec les chansons de Maurice Yvain, fait la part belle aux rengaines et aux valse-musettes et s'achève sur un coup de revolver. Le réalisme social fleurit entre les pavés comme le bouquet amer du cynisme et des vertus des bas-fonds. De l'événement politique, le film le plus représentatif est sans doute La Marseillaise de Jean Renoir, financé en partie par souscription des futurs spectateurs. Le film de l'union de la nation française, comme l'annonçaient les tracts de lancement, subit les sarcasmes de la droite et, sous la plume de Maurice Bardèche et Robert Brasillach, évoque irrésistiblement « Nous autres, hommes du Moyen-Âge » ou « Avant de partir pour la guerre de 100 ans ». Sur ce versant de la décennie qui s'achève avec « Remorque », le film de Jean Grémillon, musique de Roland Manuel, la musique prend la couleur des images qui semblent s'assombrir comme en négatif à la lumière crue et au fracas exaltant des armes de guerre.
Quand des mois entiers on a respiré l'air de la ville, on se sent fragile et l'on ne tient plus sur ses pieds. On souffre du cœur, on perd l'appétit, on est fébrile. Comme on a peur, on va consulter son docteur. Prenez de l'huile de ricin, vous ordonne le médecin. Il ferait mieux, c'est certain, de vous dire s'il était plus malin. Prends la route, mon petit gars, prends la route et ne t'en fais pas, tu guériras. Prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit. Elle est à toi. L'air de Paris te donne le teint gris, mais le grand air te le rendra plus vert. Une goutte pour la toux, prends la route, elle guérit tout. Prends la route, aimez-les-vous.
C'est, si on prend, si vous voulez, le tournant du Front populaire, je parle souvent, moi, de Julien Duvivier, parce que c'était un réalisateur qui ne, à mon avis, jamais été mis à sa juste place en définitive, qui a eu une grande célébrité, mais qui maintenant est un petit peu dévalué, et qui, à mon avis, est quand même celui qui a réussi le film du Front populaire, La belle équipe, c'est-à-dire... Vous savez, La belle équipe, c'est un sujet qui part bien et qui finit mal. Exactement, c'est l'histoire du Front populaire lui-même. Et il y a quand même ce moment absolument merveilleux de Gabin qui vient d'ouvrir avec ses copains cette guinguette au bord de la Marne et qui, le jour de l'ouverture, se promène le long de la rivière en invitant, évidemment, tous les promeneurs du dimanche à venir chez lui et en chantant cette chanson de Maurice Yvain qui avait écrit Dieu sait, je ne sais combien d'opérettes, et qui chante quand on se promène au bord de l'eau. Et c'est un moment absolument merveilleux. Il y a comme ça, quand même, moi, c'est ce que je trouve de formidable dans la production commerciale de cette époque, encore que La belle équipe s'élève au-dessus du commerce. Et je rejoins la Bertrand Tavernier, qui dit toujours, en parlant de cette époque, il dit, c'est formidable, il y avait quand même un nombre important, mais maintenant aussi, un nombre important de films absolument calamiteux. Mais dans tous ces films calamiteux, il y avait une chanson. Et toujours, cette chanson était réussie. Et c'est la vérité. On parlait de Pierre Caron tout à l'heure. Ce Pierre Caron a réalisé en 38 un film qui s'appelle « L'accroche-cœur ». D'après une comédie de Sacha Guitry, on se demande pourquoi Sacha Guitry avait été chercher Pierre Caron pour réaliser ça. C'est un film véritablement bâclé comme il n'est pas possible. Et dedans, brusquement, il y a une chanson de Van Paris, qui vient d'ailleurs comme des cheveux absolument sur la soupe, mais qui est absolument agréable, formidable à entendre. Alors, pour en revenir au Front populaire, à ce tournant, il faut citer quand même le crime de Monsieur Lange, qui montrait déjà l'atmosphère des coopératives, cette camaraderie qui soude les êtres et qui aboutit à l'assassinat de ce brave Jules Berry, costumé en prêtre dans l'affaire. Jules Berry est étonnant comédien. Et dedans, il y a cette actrice... qui était, si vous voulez, dans les années 30, la représentation de la Parisienne, c'était Florel. Florel qui avait acquis d'un seul coup le succès aussi avec l'opéra de Katsu. et qui fait la blanchisseuse de ce film, et qui à un moment donné, sans que le besoin s'en fasse sentir, elle est avec René Lefebvre en ce moment, ils viennent de passer une nuit d'amour ensemble, ils se sont découverts, ils s'aiment, et brusquement, elle se met à chanter une chanson, toute simple, et c'était... Vous savez, il y avait un art dans cette époque de ces acteurs qui étaient rompus justement au music-hall. Vous savez, on disait avant 14 ans, c'est une excellente diseuse. Et certainement, ça s'applique à Florelle, c'était une excellente diseuse. Elle détaille ça absolument merveilleusement. C'est beau à entendre. C'est peut-être à voir, enfin c'est Renoir aussi, il faut dire, qu'il y a une espèce de transfiguration des choses. Mais à l'entendre, c'est absolument délicieux. Hein. C'est absolument délicieux. Et de plus, j'ose dire qu'à ce délice s'ajoute le fait qu'on ne chante plus du tout comme ça maintenant. On peut dire, tiens, c'est peut-être un petit peu minaudié, c'est un petit peu affecté. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça coule véritablement, c'est admirable.
La musique est de Jean Viennaire.
La musique est de Jean Viennaire, oui. La musique est de Jean Viennaire. Jean Viennaire qu'on voit dans certains films. Vous savez, il y a un film également de cette de la fin de l'époque là dont nous parlons, un film de 39 qui s'appelle Derrière la façade. Derrière la façade, vous savez, c'était ces films faits par Yves Mirande où il y avait vraiment toute la fine fleur des acteurs de l'époque. Ça allait de Lucien Barou à André Lefort, de Marguerite Moreno à Gabriel Dorzia. Enfin, il y avait tout le monde. Tout le monde était dans ces films. Et il y a toute une séquence qui se déroule dans une boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit, on voit Jean Viennaire et il jouait du piano. C'est un excellent pianiste. Et il jouait avec un ami en duettiste. Son ami, c'était Clément Doucet. Et il y a toute la séquence où on voit Viennaire et Doucet.
Vous en allez ?
Oui, oui. Oui.
Chez Renoir, j'ai le sentiment que la musique
Jean-Claude
intervient au moment ce qui cesse d'être vrai lorsqu'il fait des films aux États-Unis où il est obligé malgré tout de tenir compte des exigences du système hollywoodien de l'époque. Mais sinon, dans ces films français, on sent que la musique vient au moment où elle doit venir et elle vient comme un matériau supplémentaire dans lequel Renoir ne cherche pas du tout à fondre et à harmoniser avec les sons, mais au contraire à créer un... La musique est pour lui un moyen de donner un contraste supplémentaire, de donner un... comme une sorte de même qu'il utilise la profondeur de champ, eh bien la musique est comme une étape de la profondeur de champ sonore. Et Renoir est avant tout un amateur des bruits du monde dans la partie sonore de ses films. Donc la musique vient couper une émotion. Je prends l'exemple par exemple dans La Chienne, lorsque il y a la chanson Dans la rue qui intervient après le meurtre, et la chanson fait violemment contraste, et elle n'est pas là pour renforcer directement le sentiment de ce qui est filmé, mais au contraire de renforcer indirectement, c'est-à-dire par contraste et par comme si les deux mondes s'ignoraient absolument l'un l'autre, et bien c'est ce qui rend leur rapport beaucoup plus tragique. Et donc il y a là encore une absence de tout sentimentalisme et de toute facilité qui donne quelque chose qui conserve à la musique tout ce qu'elle peut avoir comme qualité musicale, La musique n'y est absolument pas diminuée, mais la place qu'elle occupe est comme mise sur des tréteaux de théâtre. On sent là qu'il y a comme une continuation de l'esthétique, enfin de ce qu'il y a de très moderne au XXe siècle dans les œuvres à petit effectif instrumental de Stravinsky ou de Faya.
Oh, tu as fait ça? Tu as démissionné?
Non.
Enfin, l'administrateur, tu l'as vu?
Oui,
mais tu vas rien dire, tu l'as même demandé à congé.
Mais quoi, je peux pas laisser le bateau comme ça, et puis mon équipage, puis tout le monde, quoi, c'est plus fort que moi, je peux faire.
Oui, c'est plus fort que toi. Plus fort que moi, surtout. Parce que tu sais, en vrai, moi, je ne suis plus assez fort pour supporter cette vie-là, je vais sûrement tomber malade.
Tu veux dire qu'on tombe malade comme ça, toi?
Tu m'avais promis tout de même.
Il est impossible, hein.
Alors tu comprends rien. Mais si j'étais malade, André, vraiment malade, si je te disais j'ai besoin d'air, j'étouffe, ouvre la fenêtre, j'ai besoin de respirer. Tu resterais là, comme t'es en ce moment, avec les lettres pincées, et à me répéter, non, Yvonne, c'est pas possible, la fenêtre doit rester fermée.
Qu'est-ce que tu vas chercher, ça n'a aucun rapport.
Grémillon, beaucoup plus que Renoir, accepte la demande d'une dramaturgie liée au cinéma commercial de l'époque. C'est-à-dire, Grémillon est quelqu'un qui accepte complètement les contraintes, au contraire de Renoir, qui, lui, décidait de réduire les obstacles, enfin de les digérer, de les assimiler et d'en proposer une forme inédite. Grémillon est beaucoup plus, accepte beaucoup plus les lois de la société, tout simplement. Et donc, il accepte que ses films aient l'architecture et la forme que demande l'industrie cinématographique. De ce fait, il accepte la fonction reconnue de la musique qui est de souligner certains effets, le caractère de telle action ou de tel personnage. Et dans les limites de cette acceptation des contraintes, dont apparemment il ne souffrait probablement pas, encore que, certainement à des époques il en souffrait davantage qu'à d'autres, eh bien, dans ce cadre-là, il faisait appel effectivement à des musiciens comme Roland Manuel, et il savait notamment que ces musiques étaient dirigées par Roger Desormières et que ça donnait quelque chose qui était vraiment l'équivalent musical de son propre style dans la direction des acteurs et dans la représentation du réalisme. Disons un climat de ferveur qui est dans ces tableaux sociaux ou dans la peinture des couples, et qui est quelque chose dont il savait que sur le plan sonore, Desormières les traduisait de manière idéale. Et dans les limites de ces contraintes, de cette acceptation des contraintes de la musique, il se permettait de temps à autre des innovations ou des choses très inventives. Alors dans les films de Grémillon, il y a des passages très très beaux, comme la fin de Remorque avec la cantate, ou l'utilisation des chants d'enfants, de chorales d'enfants, comme dans Le ciel est à vous. Il y a des passages absolument magnifiques sur le plan musical, qui marchent par fusion avec ce que dit la séquence à ce moment-là, mais qui n'est pas un renforcement par la musique de la scène, qui est vraiment quelque chose qui est à égalité entre les plans, entre l'assemblage d'une séquence et ce que dit la musique, qui est une sorte d'état idéal et spirituel. Enfin, il y a une dimension spirituelle chez Grémillon qu'il atteint par la musique, parfois, autant que par les images.
Pour que tu sois compté dans le grand pâturage,
pour que tes yeux contemplent la vérité sans voile dans la solitude.
Au poste de manœuvre.
Jean Grémillon.
La pellicule s'abîme d'une œuvre qui nous a coûté beaucoup de peine. Il ne reste après 20 ans, 25 ans que des images, des bouts de films. Mon premier film parlant, La Petite Lise, est de 1930, je ne l'ai jamais revu. La période muette, eh bien, il ne subsiste rien de Gardien de Phare, quelques images de Maldon, et tout au large, uniquement la musique écrite par moi et enregistrée sur des rouleaux. On n'a encore jamais vu un auteur de film écrit pour la postérité, comme vous voyez. Le voudrait-il d'ailleurs?
La situation des auteurs de films paraît bien singulière.
Ah, bien singulière, monsieur. Vous comprenez, la richesse, l'efficacité de l'instrument dont nous disposons est incomparable. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Ce monde varié, divers, ce mélange complexe de sons, d'images, de bruits, de séductions verbales aussi, dont nous avons calculé l'agencement jusque dans ses plus petits détails, eh bien, le spectateur le prend ce monde pour la vie elle-même. Or, l'œuvre que nous créons se trouve être la plus fugace, la moins durable de toutes les œuvres. Et le caractère de marchandise, vous me suivez bien, n'est-ce pas, prise par le film, éclate au grand jour dès que la rentabilité a disparu. L'objet film est la proie du hasard, et je vous jure, c'est bien miracle, s'il demeure une telle proportion d'œuvres qui sont sans doute encore importantes.
Oui, je vous interromps, M. Grémillon, mais on réclame mon lauréat sur la terre.
Viens,
finir, en tout cas, concernant la musique de film, une de mes théories nouvelles de maintenant, enfin, de maintenant, il y a quelques années, disons, c'est tout de même que peut-être, l'honneur de la musique du XXe siècle a été sauvé par la musique du film. Car pour moi, c'est personnel, mais pour moi, la musique, c'est d'abord de la mélodie. Et ensuite, du rythme. Eh bien, la mélodie, je la trouve pas tellement souvent quelque part dans la musique contemporaine, je la trouve au cinéma. Je la trouve au cinéma et j'achète un disque de musique de film et je me la mets, puis je me la chante et puis je vis avec.
Non, je pense que la seule musique de film réelle, c'est la musique pour un film imaginaire de Schoenberg, qui n'a été écrite pour aucun film. Je pense que c'est la vraie musique de film, ça, qui dépasse le genre. Parce qu'elle existe pour elle-même, et chaque auditeur peut à son gré en faire les images. Thank you.
Chronosphère, Atmosphère, la musique française à l'écran dans les années 30, une émission proposée par Jacques Munier. Avec Henri Colpi, François Porcil, Raymond Chira, Alain Lacombe et Jean-Claude Biette. Musique de Jean Vienner, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Éric Satie, Maurice Jobert, Joseph Cosma, Jean Lenoir, Vincent Scotto, Georges Vamparis, Charles Trenet, Maurice Yvain, Claude Roland-Manuel et Arnold Schoenberg. Et les voix de Georges Auric, Henri Sauguet et Jean Grémillon. Document INA, Yves Builly et collection privée Michel Vial. Groupe de réalisation, Frédéric Joly, Alain Claudel, Bernard Quentin, Claude Niort, Simone Rouget, Nathalie Vivier et Marie-Ange Garandeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 mars 1990. Thank you.